Vous êtes sur RTL.
On l'a.
RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Bénédicte Tassin.
Oui, refaisons la planète, elle souffre trop, en particulier les animaux, les plantes sont en danger, vous le savez. Alors cette année 2020, on va beaucoup parler biodiversité avec en novembre la COP 15. Les États devraient s'engager à prendre des mesures pour sauver les espèces animales et végétales. Mais auparavant, très vite maintenant, le congrès de Marseille, la plus grande manifestation de la planète en faveur de la biodiversité, organisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. 15 000 personnes attendues, 160 pays représentés par des ONG du monde entier qui vont évaluer les dégâts et proposer des solutions. Sébastien Moncor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du comité français de l'UICN, cette Union internationale de conservation de la nature. On parle aujourd'hui, est-ce vrai, d'une sixième extinction massive des espèces ?
Oui, tout à fait. De l'histoire de la planète, on a connu cinq grandes phases d'extinction. La dernière a eu lieu il y a environ 65 millions d'années. C'est celle qui a vu disparaître les dinosaures. Et les scientifiques estiment aujourd'hui, compte tenu du taux d'extinction accéléré de la biodiversité, à la fois les espèces et les milieux naturels, qu'on est entré dans une sixième grande phase d'extinction à l'échelle géologique. Et les scientifiques qualifient cette sixième extinction d'anthropocène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la principale source d'évolution de la vie sur Terre, en fait, ce sont les activités humaines, par ses différents impacts, que ce soit l'agriculture intensive, la surpêche, l'urbanisation, enfin toute la dégradation des milieux naturels, accentuée et amplifiée actuellement par les changements climatiques, qui fait qu'on vit une crise tout à fait inédite de disparition de la biodiversité.
Alors sur les causes, on va y revenir, mais d'abord cette extinction massive, c'est-à-dire combien d'espèces menacées, combien d'espèces disparaissent ?
Alors, on estime que les taux d'extinction des espèces sont de 100 à 1000 fois supérieurs à ce qui devrait être naturellement, puisque de façon naturelle, les espèces s'éteignent, d'autres apparaissent. Sauf que là, on est dans un rythme extrêmement accéléré, en particulier depuis, ça a commencé en 1850, mais ça s'est très nettement accéléré après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950. L'UICN publie un document qui s'appelle la liste rouge des espèces menacées, donc qui est un document de référence qui recense les différentes espèces qui sont menacées dans le monde. Et aujourd'hui, on a plus de 30 000 espèces qui sont sur cette liste. Et c'est plutôt une estimation basse puisque on ne connaît pas en détail, on n'a pas suffisamment de connaissances pour évaluer toutes les espèces dans le monde. Certaines ne sont simplement décrites que par leur nom. Donc, on estime qu'il y a environ 10 millions d'espèces sur la planète. Nous, donc, à travers cette liste rouge des espèces menacées, on en a recensé 30 000.
Par exemple, mais vous pouvez nous donner deux ou trois exemples ?
Oui, bah vous avez toutes les grandes espèces de cétacés comme la baleine bleue. Vous avez toutes les espèces de grands singes comme les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans. Vous avez toutes les espèces de tortues marines. Donc ça, ce sont des espèces assez emblématiques. Mais aujourd'hui, le déclin de la biodiversité est particulièrement marqué pour des espèces communes. Par exemple, un petit oiseau en France qui s'appelle le chardonneret ou le verdier, qu'on a l'habitude de voir normalement dans les jardins, sont de moins en moins nombreux. On a des espèces de mammifères, comme par exemple le wison d'Europe, dont il reste moins de 250 individus en France. Des poissons aussi, hein, comme le brochet, l'anguille, l'esturgeon. Des espèces aussi comme la grenouille des champs ou la tortue d'Hermann. Donc beaucoup d'espèces sont menacées et cet impact en fait des activités humaines est très fort sur l'ensemble de la planète et il est particulièrement vrai aussi en France, sur notre territoire.
Voilà, parce que des causes, donc Sébastien Moncor, elles sont donc principalement humaines. On le voit actuellement, les incendies en Australie, vous pouvez nous faire un point là-bas sur ce qui se passe au niveau de la biodiversité ?
Oui, le continent australien est un continent extrêmement riche avec des espèces qu'on qualifie d'espèces endémiques, beaucoup d'espèces donc qui ont évolué séparément, donc qui sont vraiment uniques au monde. Ça veut dire que si elles disparaissent de l'Australie, en fait, elles disparaissent de la superficie de la planète. Et donc là, l'Australie connaît vraiment des incendies à très grande échelle, hein, comme on a pu le voir encore il y a quelques mois aussi en Amazonie, au Brésil. On a vu ces images assez dramatiques de toutes ces koalas qui sont touchés par ces sécheresses. Donc on voit aussi que avec la destruction des milieux naturels, la surpêche, l'agriculture intensive, on a aussi maintenant le changement climatique qui va venir aggraver en fait hein, les menaces qui pèsent sur la biodiversité.
Qui s'ajoute encore à ces causes dues à l'homme quoi. L'urbanisation en France cause la mort de nombreux animaux.
Cause en fait la perte de milieux naturels qui sont en fait essentiels à la vie de nombreuses espèces, à la fois qui constituent des lieux de nourrissage ou des lieux de reproduction. Donc on estime qu'on a environ 60 000 hectares qui sont détruits chaque année par l'urbanisation. Donc c'est tout à fait conséquent, c'est pour ça que le gouvernement travaille sur un objectif de zéro artificialisation nette. Mmh. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la principale source de destruction de la biodiversité en France et en Europe, plus largement dans le monde, c'est cette artificialisation des milieux naturels.
Les insectes particulièrement sont menacés par ça ?
Les insectes perdent aussi des milieux naturels pour leur reproduction, leur alimentation. Il y a aussi, bien sûr, l'effet des pesticides hein, pour les insectes. Et une chose assez significative, c'est que on voit aujourd'hui qu'avant, quand on traversait la France en voiture, on devait s'arrêter régulièrement pour nettoyer son pare-brise à cause des impacts hein, d'insectes. On voit aujourd'hui que on s'arrête de moins en moins souvent pour nettoyer son pare-brise. Donc on voit bien qu'en fait il y a un effondrement généralisé en fait d'espèces, y compris communes comme les insectes.
La question maintenant, Sébastien Moncor, c'est est-ce que c'est trop tard pour agir ?
Non, c'est pas trop tard, parce que ça c'est un des messages forts qu'on veut faire passer lors de notre congrès mondial en juin à Marseille, c'est que des solutions existent, et on voit que lorsqu'on consacre suffisamment de moyens, d'attention, qu'on est suffisamment mobilisé, qu'on arrive à enregistrer des succès pour la conservation de milieux naturels ou des espèces. Par exemple, en France, la situation de la loutre d'Europe s'est améliorée au cours des dernières années.
Comment ?
Par la protection à la fois réglementaire. Donc, la loutre figure sur la liste des espèces qui sont protégées en France. La restauration de la qualité des cours d'eau. Donc, les rivières sont moins polluées. La loutre était auparavant aussi piégée. Donc, maintenant, comme c'est une espèce protégée, le piégeage est illégal et interdit. Et donc, les populations de loutres ont pu se restaurer.
Des zones protégées, des quotas aussi, des quotas de pêche. On l'a vu avec le thon rouge, ça peut marcher.
Les quotas de pêche marchent. On voit aussi les effets du moratoire, par exemple, sur la chasse à la baleine. Une espèce, un grand cétacé comme le rorqual commun a bénéficié de ces interdictions de la pêche commerciale à la baleine. Et on recense aujourd'hui environ 100 000 individus de rorqual commun. On voit aussi la situation de la baleine grise et de la baleine bleue et de la baleine à bosse qui s'améliore grâce à ces mesures.
Et pourtant, la baleine est toujours chassée en Norvège, au Japon.
Disons qu'il y a encore de la pêche, plutôt de la pêche traditionnelle. Donc il y a un caractère quand même assez cruel, mais au niveau mondial, quand on voit les effets de cette interdiction de la pêche commerciale pour ces espèces qui ont été pendant des dizaines et des dizaines d'années largement surexploitées.
Alors,
donc on
Marseille,
voit que la
oui.
protection de ces espèces marche.
Marseille, en mars prochain, congrès mondial en faveur de la biodiversité, c'est pour lancer un message ?
C'est pour à la fois lancer un message de mobilisation, effectivement, en disant qu'il faut vraiment que tous les acteurs soient mobilisés, à la fois les États, les organismes publics, les ONG, les entreprises, les collectivités locales, les représentants des communautés autochtones. On a besoin aujourd'hui d'une beaucoup plus large mobilisation. Et justement, quand on voit que la conservation, ça marche, et ça doit se généraliser davantage. Et pour cela, on doit compter sur une mobilisation beaucoup plus large de l'ensemble de la société.
Mais comment ? Comment pourrait-on faire ? C'est-à-dire se mobiliser, manifester, dire qu'on est contre, contre les pesticides, contre la chasse à la baleine.
Oui, c'est le Congrès mondial de l'UICN a pour objectif de faire un certain nombre de recommandations, de propositions tout à fait concrètes. Donc, par exemple, un des principaux outils de protection de la nature, ce sont les espaces protégés, les parcs nationaux, les réserves naturelles, qui aujourd'hui, il faut étendre de façon beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on a environ 15% de l'espace terrestre qui est protégé.
Qui est très peu.
Dans le domaine maritime, ce qui est peu. Et on voit que, justement, en créant ces espaces protégés, on protège les milieux naturels qui sont indispensables à la survie de nombreuses espèces. Donc il faut aujourd'hui étendre ce réseau des espaces protégés. Et ce que nous proposons, c'est qu'en 2030, ce réseau représente 30% des espaces terrestres et 30% des espaces marins.
Mais un congrès, c'est bien. Faire des préconisations, c'est bien. Est-ce que vous avez les moyens de faire pression sur les gouvernements ?
Alors, on donne justement cette opportunité d'avoir ce temps fort de mobilisation et qui va venir juste avant la COP15 de la biodiversité organisée par l'ONU en Chine en octobre. Vous en avez parlé. Et c'est une COP qui sera pas comme les autres. Parce que c'est à la fois une COP de bilan. Les États, en fait, s'étaient engagés en 2010 à atteindre 20 grands objectifs internationaux sur la biodiversité. On sait que pour la plupart, ils ne sont pas atteints. Et donc, les États vont devoir se réengager sur les 10 prochaines années. Donc, ce sera un moment à la fois historique et, on l'espère, décisif. Puisque aujourd'hui, il est clair qu'il faut avancer beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus concrète, plus opérationnelle, avec des moyens financiers plus importants consacrés à la protection de la biodiversité dans le monde.
Sébastien, encore un dernier mot. Une espèce animale sur laquelle vous voulez mettre un coup de projecteur en ce début 2020 pour nos auditeurs ?
Alors, une espèce... on a une espèce particulièrement menacée en France qui s'appelle le wison d'Europe, qui est un cousin en fait de la loutre et qui, autant la loutre a vu son état s'améliorer, cette espèce-là a vu son état se dégrader. C'est une espèce qui est classée en danger critique d'extinction sur le territoire français. Il reste moins de 250 individus.
Dans quelle région ?
Dans le sud-ouest de la France. Et donc c'est une espèce qui mérite vraiment des mesures de conservation. Plus largement, c'est vraiment l'ensemble des espèces et vraiment l'ensemble de la biodiversité française qui mérite toute notre attention, à la fois en métropole, mais également dans nos territoires d'outre-mer. Parce que grâce à ces territoires d'outre-mer, en fait, la France abrite une biodiversité unique d'un point de vue mondial. C'est grâce à ces outre-mer que la France figure parmi les 15 pays qui ont appris la plus grande biodiversité dans le monde. Et c'est grâce à ces outre-mer que la France a le deuxième domaine maritime mondial. Donc, historiquement, on a fait beaucoup d'efforts pour la protection des espaces terrestres. Et aujourd'hui, l'accent doit être aussi davantage mis sur la protection des espaces marins, notamment sur les récifs coralliens et les mangroves. La France en abrite beaucoup, a une forte responsabilité. Et donc, on espère aussi que cette année 2020 sera décisive pour la protection de ces milieux.
Merci beaucoup Sébastien Moncor, c'était le premier numéro de On refait la planète pour cette année 2020, on voulait le consacrer à la biodiversité. Je rappelle que vous êtes le directeur du comité français de l'UICN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature. On se donne rendez-vous à Marseille au mois de mars prochain, on vous suivra. Merci beaucoup.
Tout à fait, merci.
Une pause et dans un instant, voilà qui va vous décider à lâcher votre portable au volant.
On refait la planète sur RTL.